Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC est plus excité que jamais. Il ne reste plus que 4 Grands Prix et tout s'est resserré. En tête du championnat du monde, c'était un week-end de folie à Mexico. Sur le plan comptable, il y a plein de choses à dire. Un premier virage, un premier tour de dingue. Bon voilà, on va pas tout vous spoiler comme on dit dans le sommaire. Mais en tout cas, c'est une course qui a fait basculer peut-être beaucoup de choses dans ce championnat du monde 2020. On va accueillir les ingénieurs tout de suite pour rentrer directement dans le vif du sujet. Notre team principal from Miami, Jean-Luc Roy, est avec nous. Salut mon Jean-Luc.
Hello mon Nico, welcome back. Un plaisir de t'accueillir à nouveau. On aimait bien, on aime bien tout le monde, mais c'est un plaisir de t'avoir.
Bah ouais, j'ai un petit problème de cartilage, ça arrive au meilleur.
Allez, t'es tout neuf.
Mais je suis là, je suis nickel.
Regardez comment il fait son Helmut Marko là, encensé des jeunes pilotes là qu'il aime bien.
C'est notre team principal, Jean-Luc, il est là, il concerne tout le monde, c'est le manager. C'est ça qui est bon.
Sois gentil, mon petit Arnaud, et je serai gentil avec toi.
Les ingénieurs pour accompagner Jean-Luc Arnaud Valadon et Tristan Vandendriche. Salut les gars.
Salut, salut. Que tu es beau, Jean-Luc.
Bon, toi, c'est trop. Je préfère. Finalement, je préfère Tristan. Salut, mon petit Tristan.
Hola a todos.
Il le veut son baquet pour 2026, Arnaud. C'est fou ça, tu vois.
On a dit après le Qatar.
Ouais, fais attention, Arnaud, parce que Helmut Marko recule les décisions et Jean-Luc pourrait faire pareil.
Absolument.
C'est vrai. Et d'ailleurs, on va en parler de tout ça. Parce qu'on attendait la line-up Red Bull après ce Grand Prix du Mexique et finalement. C'est pas pour tout de suite. On va voir s'il faut s'inquiéter peut-être pour notre Frenchie Isaac Hadjar. Les gars, c'est une tradition dans le paddock. Je vous rappelle que le paddock est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Qu'il faut nous mettre une petite note sur ces plateformes de téléchargement pour que le podcast continue à exister. Vous pouvez nous mettre des commentaires aussi pour interagir avec nous. C'est super important. Et donc, la tradition, c'est de demander sur 5 la petite note de ce Grand Prix du Mexique à nos ingénieurs. Je commence par toi, Jean-Luc.
Eh bien écoute, je mets un bon 4, la note précédente, un bon 4 et j'ai plein de raisons. Bon, 4,25.
Arnaud ?
J'avais une virtuelle note jusqu'à 3 tours de la fin qui était 4 et c'est tombé à 3.
Ah oui, le 2, d'accord, ok, les derniers tours ont pesé, je comprends.
Totalement.
Tristan ?
Eh bien 3,5 parce qu'on a eu un départ de folie, des tours au début assez passionnants et puis après à la fin la VSC a ruiné une bataille d'anthologie entre Leclerc et
Verstappen.
Pas qu'une seule, ouais, exactement. Bon, on va décortiquer tout ça, ces décisions de la FIA, bien évidemment, qui ont pesé dans ce scénario de course. C'est parti, les gars, pour ce débrief du Grand Prix du Mexique. Tiens, je voulais pas, mais je vous rappelle également que vous avez plein d'extraits du paddock, plein d'actu Formule 1, d'infos sur la page Instagram RMC Formule 1, avec de plus en plus de contenu qu'on vous propose. Et vous avez les camarades du paddock Pass aussi qui sont disponibles sur YouTube. Donc voilà, tous les contenus Formule 1 de RMC Sport, c'est sur la page Instagram que ça se passe. Je commence en vous donnant le classement de ce Grand Prix du Mexique, en tout cas les gros enseignements, avec la victoire de Lando Norris, sa 10e en Formule 1. Peut-être la plus facile de la saison, tellement la domination de Norris a été outrageante sur ce week-end. Il s'impose devant la Ferrari de Charles Leclerc et Max Verstappen qui vient grappiller une nouvelle fois des petits points, pas sur Norris, mais en tout cas sur Piastri, qui est troisième. Berman égale le meilleur résultat de Haas en Formule 1 à la 4e position. Oscar Piastri seulement 5e, une nouvelle fois. Les deux Mercedes de Antonelli et Russell 6e, 7e. Lewis Hamilton 8e, qui a manqué un joli coup. Lewis Hamilton, Esteban Ocon sur la deuxième as est 9e et Bortoleto 10e, Isaac Hadjar 13e, Pierre Gasly se morfond à la 15e place. Voilà pour les gros enseignements. Au championnat des pilotes, 36 points d'écart entre le premier et le troisième, les gars. Lando Norris est passé devant, un petit point d'avance sur Oscar Piastri et Max Verstappen a donc 321 points à 36 unités de Norris et à 35 de Piastri. Leclerc remonte un petit peu, mais voilà pour les gros enseignements du classement des pilotes. Et puis chez les constructeurs, c'est important, mais Ferrari reprend la deuxième position à Mercedes, un petit point d'avance pour la Scuderia après un week-end positif, même si Ferrari aurait pu espérer bien mieux avec Lewis Hamilton. Voilà pour les gros enseignements de ce Grand Prix du Mexique d'un point de vue comptable. Jean-Luc, tout de suite, plongeons-nous dans cette lutte pour le titre, là, parce que tout s'est resserré, c'est ultra excitant. On a un Lando Norris qui a fait le job, qui a pris des gros points, et je le disais, qui signe la victoire la plus large entre un vainqueur de Grand Prix et son dauphin cette saison, avec plus de 30 secondes d'avance. Il fait un week-end parfait, Norris.
Ah, absolument, mon Nico. Bah, écoute, j'explique ma très bonne note aussi, hein, comme toujours en début de podcast. Pour toutes les raisons que tu as évoquées, c'est-à-dire déjà, c'est un parcours sans faute de Lando Norris, absolument impeccable. Et il faut le dire quand il est un peu moins bon ou un peu moyen. Là, il est excellent, avec une pole en sortie de d'on ne sait où. Lui non plus, d'ailleurs, il ne s'attendait pas. Parce qu'il n'a plus, vous savez, les temps intermédiaires qui s'affichent. Il a demandé depuis longtemps sur le tableau de bord, ça le perturbait. Donc maintenant, il fait le mieux qu'il peut, ce qui est quand même normal en qualif. Il est distrait par rien. Et là, il nous fait claquer un chrono absolument incroyable, qui relègue quand même Charles Leclerc à plus de 3 dixièmes. Non, c'est impressionnant.
Sur un circuit court, une 15 en plus.
Oui, en plus, c'est très court, absolument. Donc, on est quand même sur la base de une 15. Après, en course, on savait bien que s'il partait devant, tout le monde l'avait dit, puis lui aussi, personne ne le reverrait. Il est parti devant. Il a pris un super départ. Moi, ce que j'adore dans ce freinage, évidemment, 4 de front. Évidemment, ça fait un peu des dégâts, mais c'est ça qui est sympa, c'est ça qui est intéressant. Et puis, il s'en est bien tiré. Après, il a accru régulièrement. On dit les gens heureux n'ont pas d'histoire. Lui, il n'a pas eu d'histoire. Alors, c'est quand même la troisième fois qu'il mène un Grand Prix de bout en bout, avec un écart donc supérieur à celui de Verstappen en Hongrie en 2023. Bon, après, si on assène trop de chiffres et de références, on perd un peu tout le monde et c'est normal. En tout cas, il a repris la tête du championnat, tu l'évoquais, mon Nico, c'est ça le plus important pour un point. Et puis, clairement, c'est ce que voulait McLaren, donc tout le monde est content.
On va bien évidemment revenir sur tout ça, mais c'est vrai qu'on sent que niveau politique, ça arrange peut-être McLaren que Lando Norris reprenne la tête du championnat. Arnaud, il y a ce premier tour de folie. On va rester un peu sur la course là de Norris sur son week-end, mais revenir sur ce Grand Prix du Mexique, c'est forcément ce premier virage, ce premier tour dont Jean-Luc parlait, où il s'est passé 12 milliards de choses et où on a eu l'impression que le temps était un peu suspendu parce que le destin des pilotes là pouvait s'arrêter après ce premier virage. Tu sentais qu'ils pouvaient tout gagner ou tout perdre après ce premier virage. C'était une folie.
On l'avait souligné dans le warm-up avec Séraphin, hein, c'est 800 mètres avant le premier virage. Et quand tu les vois 4 de front, et on voit que Lando Norris a beaucoup appris. On se souvient, il y a un an, on le raillait parce qu'il faisait une pole et qu'il perdait le bénéfice de sa pole au premier ou deuxième virage.
Il n'y a même pas besoin de remonter à un an. Ses départs de début de saison étaient c'était très problématique pour lui. Il perdait souvent énormément de positions sur ses départs.
Et c'est marrant comment le crash au Canada, où on s'est dit, où Norris est rentré dans Piastri, ils se sont touchés dans la ligne droite des stands, commence à totalement relancer Norris, justement, et qui même aujourd'hui est le plus fort mentalement. Alors on va évoquer plus tard le cas Piastri, mais la façon dont Norris a géré ce week-end, nos confrères de l'équipe ont mis 10 sur 10, je regardais les notes. Oui, Jean-Luc l'a dit, 3 dixièmes en Q3 sur le deuxième, une maîtrise, un rythme impeccable, c'était presque réglé au centième près. Il faisait du 22-3, 1 minute 22-3 et 3 dixièmes, 1 minute 22-4 dixièmes. La façon de gérer ses pneus, il a à aucun moment paniqué parce qu'on s'est dit que, et c'est comme souvent c'est le cas avec Lando Norris, son principal ennemi c'est lui-même. Et on a retrouvé des McLaren très performantes aussi dans ces conditions au Mexique en altitude et la chaleur. À aucun moment il a été inquiété, il a été véritablement serein. D'habitude, il y a toujours un petit freinage raté. Des fois, on avait vu sur la première partie de saison qu'il était capable un petit peu de se rater sur une gestion de course, d'avoir un petit moment d'égarement. Ce n'était pas le cas. Donc franchement, Lando Norris, qui est aujourd'hui le leader pour un petit point. J'avais théorisé que McLaren choisirait de prioriser un pilote au moment où Norris serait numéro 1 au classement. On va peut-être attendre qu'il y ait un peu plus d'un point d'écart, mais ça semble se profiler ce Lando Norris favorisé pour la suite et le titre.
C'est clair. On va l'écouter, Lando Norris, au micro du diffuseur Canal Plus après la course. Il pétait le feu, vous imaginez bien. Ça a été une très bonne course. Peut-être pas la plus excitante. 30 et franchement ça me va. La course, est... la voiture s'est bien comportée aujourd'hui. J'ai dû beaucoup me concentrer car c'est un circuit qui demande beaucoup de gestion des pneus, du refroidissement. Ça n'a pas été une course facile. Mais j'ai pu garder la tête froide et continuer à pousser. Parfois, plus les courses sont ennuyantes, mieux c'est. Quel est votre mindset, votre état d'esprit pour cette fin de saison? C'est exactement le même. Rouler vite et gagner. Voilà Lando Norris avec la relance de notre consoeur journaliste Charlotte Gabas au micro, bien évidemment, de Canal+. C'est vrai, Tristan, que bah, Lando Norris, il a eu des passages ultra compliqués mentalement, ne serait-ce qu'il y a 4-5 courses. On se disait que, dans nos analyses, nous les premiers, alors est-ce qu'on était dur? Non, mais c'est ce qui dégageait, qu'il n'avait peut-être pas l'attitude, le mental d'un champion. On le trouvait un peu prudent, on trouvait qu'il n'avait pas su saisir certaines opportunités. Et c'est fou comme il a réussi à inverser ça et là à montrer un peu tout l'inverse sur ce week-end au Mexique.
Là, on retrouve, j'ai presque envie de dire, en comparant ce qui est comparable, mais un Max Verstappen de 2023 dans la performance de Lando Norris ce week-end. Après le Grand Prix des Pays-Bas, en tout cas, personnellement, j'avais pas beaucoup d'attentes pour lui sur la fin de saison.
Ça, c'était pas de sa faute, à Zandvoort.
Non, mais je me suis dit, ça va complètement. Oui, en fait, il aura eu tout dans la saison qui fait qu'il va probablement lâcher. Il a eu des erreurs personnelles, comme avec le Canada, et des erreurs mécaniques où il se sent peut-être un peu lâché par l'équipe, même si l'équipe n'y était pas forcément non plus pour grand-chose. Enfin, voilà, c'est une casse mécanique, ça arrive. Et au final, il a pris tout ça. Je pense qu'il s'est regardé dans le miroir et il a dit « T'as une chance d'être champion du monde, c'est maintenant. Donc tu l'as saisi ou tu l'as saisi pas. » Et puis, moi, j'ai regardé le Grand Prix avec Théo Pourchaire au commentaire, pas avec Julien Febro ce dimanche. Et Théo Pourchaire rappelait qu'effectivement, sur sa saison de F3, Oscar Piastri, comme les années précédentes en F1, il s'était complètement écroulé sur la fin de saison. Et donc, Lando Norris l'a probablement vu venir. Il s'est dit, en 2024, il s'est passé quoi? Oscar Piastri s'est flagellé sur sa fin de saison. Il va faire pareil cette année, donc je ne lâche pas. Et puis, aujourd'hui, il sort une performance XXL pour bien mettre le doute dans la tête d'Oscar Piastri.
J'ai vu quelques mauvaises langues sur les réseaux sociaux qui disaient en même temps, quand tu as Mark Webber comme manager, c'est normal de se voter en fin de saison.
mais c'est vrai, Jean-Luc, que cet effondrement de Piastri, est-ce qu'on parle d'un effondrement de Piastri dans la performance? Oui, comptablement, oui. Hein. Il n'est plus monté sur un podium depuis Monza. Oscar Piastri, ça fait 5 courses qui ne gagnent pas. C'est vrai qu'on ressent ce côté où il apparaît démuni, Piastri. Et ça tranche totalement avec l'Oscar Piastri du début de saison, où on était les premiers à dire qu'il était froid comme une lame, avec un mental d'acier. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois, t'as l'impression, Oscar Piastri.
Bah oui, mais écoute, je reviens à ma théorie. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, et comme il faut toujours le dire, même si on le coupe après au montage ou dans ce qu'on propose, c'est pas grave, c'est mon opinion. On est libre de ne pas être d'accord. Pour moi, on l'a cassé, je dis bien, chez McLaren. De quelle manière? C'est très simple. On ne s'attendait pas, évidemment, chez McLaren, à la casse moteur. C'est évident qu'il a frappé Norris. Hein. Tristan l'évoquait, on le sait. Bon, ça, c'était évidemment totalement imprévu. En sachant toujours, ce sont des sports mécaniques, que ça peut encore arriver à n'importe lequel des prétendants au titre. On va parler des trois principaux, même si Russell, je crois, mathématiquement, est toujours dans le coup. Mais ça peut encore arriver sur les 4 derniers Grands Prix. Espérons que ça ne soit pas le cas. C'est toujours regrettable. Après ça, rappelez-vous l'Italie. Hein, où là, on le casse, c'est-à-dire qu'on lui demande de laisser passer Norris alors qu'il y avait une faute de l'équipe dans les stands. On est bien d'accord. À tel point que on ne connaît pas les discussions internes, mais il y en a en permanence, ils le disent tous les deux, il faut lire un tout petit peu entre les lignes. En Azerbaïdjan, on l'a dit, on ne le reconnaît plus, Oscar Piastri. Alors là, il fait bêtise sur bêtise, pour rester poli. Les qualifs, il se met dans le rail. Au départ, il se loupe complètement. Et au premier tour, il se sort. Bon. Et là, la mécanique est complètement enrayée. Puisqu'on le voit bien, à Singapour, il fait une course, j'ose presque la qualifier de relativement anonyme. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Alors j'ai regardé...
Et l'incident au premier tour à Singapour, au départ.
Oui.
Où il fulmine absolument. En disant « Regardez, il m'a poussé, c'est autorisé.
Ouais, » On est d'accord. Et là, l'équipe a rien dit. A dit « Non, c'est bon. » Alors, j'ai regardé les temps.
Ils lui ont quand même donné après un avantage qu'il a perdu à Austin, Oscar Piastri, au final. l'équipe a assumé qu'il avait un avantage sur les qualifications qu'il n'a pas pu saisir non plus. Mais après, Singapour, ils ont quand même remis dans la balance un peu
après,
d'égalité.
Ce qui est inquiétant sur Piastri, c'est ses performances en qualif, en fait.
Et ben voilà. Et ben écoutez, j'ai relevé les écarts. Hein. Donc, sur les deux derniers Grands Prix à Austin, 283 millièmes. C'est monstrueux, c'est jamais arrivé à ce point-là. Et Mexique, 588 millièmes. Alors, je vous la fais rapide. À Singapour, c'est Norris qui est en retard de 72 millièmes. À Bakou, Piastri en avance de 18 millièmes. À Monza, en avance de 123 millièmes. À Zandvoort, Norris en avance de 12 millièmes. À Spa, 85 millièmes à l'avantage de Piastri. Et Budapest et Silverstone, c'est pareil, c'est 15 millièmes d'avance pour Piastri sur Norris. Bon, vous l'avez compris, c'est pas normal. J'ai regardé en course également les écarts de temps. Alors, à conditions comparables, hein, évidemment.
Mais oui,
après, il faut toujours. Voilà,
c'est
finir, toujours. Ouais. Les temps en course, moi, je les aime bien parce que ça donne une indication. Mais il faut savoir la stratégie, avec quel pneu, à quel moment. Ok, ça, tout ça, on est d'accord. Mais enfin, là, il y a une cassure. Donc, pour moi, la fracture d'Oscar Piastri, elle est morale, elle est mentale. Et je répète une nouvelle fois, avec un point d'écart, peut-être ce serait vraiment trop montrer ce qu'il voulait, donner des consignes d'équipe dès le Brésil. Hein, je parle une nouvelle fois de McLaren. Mais c'est le petit garçon de l'école bien poli, Lando Norris. J'ai rien contre lui. Hein. C'est un super pilote et ça fera certainement un beau champion du monde. Mais là, c'est tellement visible. Et vous vous rappelez le discours d'Andrea Stella qui s'est coupé malgré lui. Là, quand on l'interroge et on lui dit « Mais alors, la performance, que se passe-t-il avec Piastri ?»« Oh, il est jeune encore, il n'est que dans sa troisième saison. » Et puis, vous savez, il pilote pas très bien quand c'est glissant. Hein. Bon, on n'a pas à dire ça d'un jeune homme de 24 ans qui est en tête du championnat du monde, qui est un de ses pilotes. Bon, on a déjà Stella, malgré lui, là, il s'est un peu coupé, il s'est trahi, il a déjà dit « Bah oui, bah, c'est normal que Norris l'emporte, il a beaucoup plus de métier. »
Alors, il dit…
Ce qui me surprend, Arnaud, c'est l'attitude de Piastri dans la com. Tu le sens résigné, en fait. Même là, après Mexique,
il pétille plus le regard.
Ouais,
il est cassé.
Sais pas, Arnaud, ce que t'as ressenti, mais tu ressens même pas sa vertu un petit peu de combattant, de guerrier, où tu dis, ok, on veut un peu me la mettre à l'envers peut-être, mais moi je vais rien lâcher. Tu sens qu'il est résigné là. Il dit oui, bah Lando, il a trouvé de la performance. Moi, ma voiture, elle décline pas. C'est juste que c'est un petit peu plus dur à. Voilà, j'ai moins les clés, mais tu sens que c'est fade.
Alors la question. Importante, c'est il dit qu'il est obligé de conduire sa voiture d'une façon pas naturelle, autrement dit, pas forcément réglée pour moi. Et est-ce que ça veut dire qu'à McLaren, on a privilégié plutôt des réglages et des setups vers Lando Norris? Ça, c'est une grosse question, en fait. Je sais pas, parce que on a l'impression qu'il ne sent plus sa machine, en fait. Alors, on sait, on a dit, oui, à Austin, il avait du mal à trouver ses points de freinage. Moi, j'ai trouvé que il rate sa qualif au Mexique et que sa course, bah, il fait quand même une remontée intéressante. Alors, il s'est retrouvé longtemps dans le trafic avec Tsunoda devant, par exemple, et qu'il a voulu être plutôt prudent. Je ne trouve pas sa course si ignoble que ça. Hein. Il a fait quand même une petite remontée, pas mal de déplacements.
Il imite bien la casse au final.
Exactement. Et si on l'avait laissé, il aurait pu faire un dernier dépassement aussi en fin de course, tout comme Max Verstappen. Ça, on va en parler. Et je sens vraiment que Piastri ne sent plus sa machine. Et quand il dit... je la conduis d'une façon pas naturelle, ça se voit qu'il y a quelque chose. Et du coup, tu sens qu'il est même plus tellement dans la visualisation, dans l'anticipation. Il subit les événements. Et ça rejoint aussi ce que tu dis, Nico. Il subit les événements en piste et il les subit hors piste avec son ton devant les micros ou. Il n'est pas froid, il est résigné. Là, Norris qui est devant, j'ai l'impression que lui déjà a acté, avant même que ça se produise ce week-end, qu'une fois qu'il serait devant, il ne pourrait pas le repasser.
Ouais. Bah tiens, on va l'écouter, Oscar Piastri, au micro de Canal après la course.
Semi-satisfied, you know, it wasn't an easy race, obviously.
Je suis à moitié satisfait, ça n'a pas été une course facile, bien sûr. J'ai fait de mon mieux pour rattraper mon retard.
Bah bon,
ça n'a pas été facile, hein.
And yeah, the pace was good. Just
le rythme était bon, kind of being stuck in the mais entre l'air sale, le fait d'être bloqué dans le train DRS, c'était vraiment super difficile. Le plus gros enjeu pour moi pour le moment, c'est d'essayer de retrouver du rythme. C'est le plus important. Les derniers week-ends ont été très difficiles. C'est la première chose à régler. Et quand on aura retrouvé le rythme, tout ira mieux.
Oui, je voulais juste rajouter, et il le dit, c'était un peu la même chose quand les Mercedes se sont retrouvées dans le trafic parce qu'elles étaient beaucoup moins performantes. Elles se retrouvent dans le trafic avec cette air sale. Bah, ça change énormément de choses à la performance de la voiture.
Oui, et puis pour rebondir sur ce que Jean-Luc dit, sa performance en course au final montre quand même que pour moi, il ne faut pas non plus rentrer dans le complot. Il n'y a pas non plus... Peut-être que dans les médias et en interne, il n'est pas soutenu, mais ça, depuis le début de la saison, on le sait, même depuis 2024, presque même depuis qu'il a signé dans l'écurie, on sait que Lando Norris va, à un moment ou un autre, être favorisé, en tout cas dans les décisions hors piste, j'ai envie de dire.
Et tu crois que lui, il le sait ? Tu crois qu'en fait, lui, pour lui, c'est compris, un peu plus clair et que du coup, il y est préparé ? Parce que moi, franchement, très honnêtement, Tristan, on te fait ça. T'es pilote, tu te bagarres. T'as un point d'écart. T'as été leader du championnat pendant combien 15 courses, 14 courses.
Pratiquement la moitié de la saison. Voilà. Enfin, la moitié, tu vois, pardon.
Moi,
les trois quarts.
Moi, Nico, je
prends l'exemple. Les trois quarts de la saison. Mais moi, tu me fais ça devant les médias. Mais je ne peux pas me retenir et être aussi lisse et propre envers mon écurie. Tu pètes un plomb. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, qu'il s'était préparé à ça. Comme s'il le savait déjà qu'en gros, tant que t'es premier, nickel, tu te bagarres. Mais si Norris
depuis
passe
Monza,
devant...
Depuis Monza, il a compris.
Norris est derrière depuis. Hein, il vient de passer devant ce week-end. Ils ont pas. Enfin, c'était pour moi la meilleure comparaison qu'on a pour moi, c'est Lewis Hamilton et Nico Rosberg qui en 2016 a pas arrêté de dire qu'en gros Nico Rosberg avait été favorisé toute la saison, que ce soit dans le choix des mécaniciens, etc. Ils avaient changé les garages, etc., etc. Les casse moteurs. Bref. Au final, Lewis Hamilton s'est battu jusqu'au bout et il avait gardé de la performance jusqu'au bout contre Nico Rosberg. Nico Rosberg a laissé sa carrière une année pour battre Lewis Hamilton. Moi, ce que je vois là dans la résilience d'Oscar Piastri ce week-end, c'est juste qu'il a été incapable de trouver du rythme. C'est tout, point. Alors oui, il y a de la déception, mais forcément, il y a de la déception. C'est un pilote qui joue le championnat et qui ne trouve pas de la performance sur ce week-end.
Mais pas que ce week-end,
donc Tristan nous a annoncé la retraite à venir de Lando Norris.
Mais non,
c'est pas ce que je...
Bah, Austin, au final, il n'a pas un rythme non plus déconnant, Oscar Piastri. Il se qualifie sur la sprint, il se qualifie combien ? C'est pareil sur la course. Au final, il n'est pas non plus... Enfin, on a l'impression de dépeindre un pilote qui est à l'agonie totale depuis 5 ou 10 Grands Prix. Ce qui, pour moi, n'est pas...
Après, quand tu vois les temps en qualif,
c'est le leader du championnat du monde avec sa meilleure voiture.
En millième, et aujourd'hui ça se joue en centième, en dixième en faveur.
Mais quand on regarde,
il part quand même toujours de plus loin.
Quand on regarde la physionomie des courses récentes, sur les courses récentes, en gros, Max Verstappen et la Red Bull ont quand même trouvé d'énormes améliorations qui les font largement revenir dans la course, en tout cas pour le championnat pilote Max Verstappen. Et d'un autre côté, on a un Lando Norris qui est un peu en phase, comme depuis le début de la saison, il y a des phases plus Oscar Piastri, il y a des phases plus Lando Norris, trouve plus de rythme. Si au Brésil, Oscar Piastri est dans la même situation que la situation dans laquelle il est après le Mexique, c'est-à-dire une voiture presque inconduisible, on a l'impression, et en tout cas à 5 dixièmes de Lando Norris en qualification, là je suis d'accord, il faudra probablement se poser une question sur les setups, etc. Moi, l'explication que donne Stella ce week-end de Oscar Piastri a juste énormément de mal sur les circuits à petite adhérence, moi je la comprends. Et j'ai pas non plus envie de... Je comprends ton point de vue, Jean-Luc, de dire que Oscar Piastri... Parce que on le voit, mais enfin tout le monde le voit. C'est impossible de nier qu'Oscar Piastri
est défavorisé en
interne et dans la communication externe par rapport à Lando Norris. Et on l'a vu dans les célébrations du titre constructeur, etc. Il y a plein d'éléments qui prouvent ça. Mais par contre, de là à rentrer presque dans le, je dis pas que c'est du complot, mais à rentrer dans
on a voulu favoriser, c'est un choix.
Mais oui, mais moi, j'aimerais qu'on m'explique le choix de favoriser un Lando Norris qui est à 30 points derrière Oscar Piastri. Il y a encore peu de temps. C'est ça
parce
que j'ai du mal
Tristan,
à comprendre.
La preuve, il y avait la place et il y avait le temps pour revenir. À partir du moment, et tu sais, c'est la meilleure, c'est pas un complot, le mot est beaucoup trop fort, c'est un choix objectif, arbitraire, qui dit, nous avons un garçon qui est là depuis 2019, qui a mangé le pain noir avec
nous,
qui a travaillé, qui est britannique, je le répète, britannique, qui est le bon petit garçon, sympa, que tout le monde adore dans le paddock et en Grande-Bretagne, et ça va faire un magnifique champion du monde.
Après, je comprends, mais c'est juste, j'attends de voir au moins le Brésil pour confirmer cette idée de confirmer réellement Norris.
On n'est évidemment pas dans le secret des dieux de McLaren, mais c'est vrai qu'ils ont dû aussi réagir par rapport à une Red Bull qui est revenue au niveau de la performance de la McLaren. Et donc peut-être que dans ses choix, pour garder éviter que Max Verstappen vienne coiffer sur le poteau tout le monde, il y a peut-être eu des réglages qui ont fait que le pilotage de Norris se retrouvait moins pénalisé que celui de Piastri, qui par-dessus ça, a commencé à cogiter, parce qu'effectivement, on a vu le grip était catastrophique au Mexique, c'était compliqué, les voitures glissaient, et moi je pense que dans ce cocktail-là, c'est forcément multifactoriel, dans ce cocktail-là, on a un Piastri, pour moi quand même le principal problème de Piastri, tu l'as dit, en course, franchement c'est loin d'être infamant, surtout sur un circuit où c'est difficile de doubler, je trouve qu'il a fait plutôt une bonne course, mais oui. Il part P7, bah, et c'est bien ça le problème. Bah,
voilà. Mais il part tellement loin.
C'est pour ça que j'explique, en tout cas sur ce résultat du Mexique, si on se focalise vraiment sur ce Grand Prix, pour moi le résultat s'explique réellement par une perte peut-être de motivation parce qu'il n'est pas soutenu, mais ça j'ai envie de dire c'est presque depuis le début de saison, et surtout parce qu'il n'a pas été à l'aise sur ce week-end, et il n'a pas été à l'aise sur ce Grand Prix. Au final, il fait pas de grosse erreur.
6 dixièmes d'écart entre les deux en qualif, tu vois.
Moi, le seul truc que j'ai du mal à m'expliquer, et c'est là où moi je vais... Enfin, bien sûr, là, on est dans l'interprétation. Hein,
oui,
on est,
totalement.
Donc voilà, c'est ce qu'on... Mais là où moi je vais un peu dans le sens de Jean-Luc, on faisait le parallèle entre Rosberg et Hamilton en 2016. Mais Rosberg et Hamilton, quand ils sentaient qu'ils étaient défavorisés, mais ils mettaient d'énormes tirs derrière dans les médias pour viser les choix de leur écurie, pour viser les choix des ingénieurs, pour parler du setup, des réglages qui avantageaient l'un ou l'autre.
Ils avaient tellement d'avance. En fait, ils n'avaient pas un autre pilote
Mais là aussi, quand même, à un moment... Avant le retour de Red Bull, ils étaient...
Je pense qu'Oscar Piastri, le titre constructeur, tu l'as assuré. Que ce soit Norris, champion du monde, ou Verstappen, Oscar Piastri, je pense qu'il s'en fout, en fait. Il s'en fout.
Je crois qu'il préférerait Verstappen.
Très individuellement, il s'en fout, et il préférait peut-être même Verstappen. Donc, moi, c'est là où moi j'ai du mal à me dire que le gars, après le Grand Prix du Mexique, il fasse aussi peu de déclarations offensives. Je suis à 4 courses à 1 point. J'ai été leader du championnat pendant les 3 quarts de la saison. Ils sont en train de me l'enlever. Ils sont en train de m'enlever mon rêve de gosse.
Mais peut-être qu'il ne l'enlève pas,
tu vois.
Peut-être qu'il ne l'enlève pas, justement, juste qu'il est résigné et que lui-même sait qu'il n'a pas encore les...
S'il est résigné à
24 ans avec l'ambition qu'il a, la détermination.
Tu vois, c'est ça, moi, ce que je me dis, Tristan. C'est avec ce qu'il a montré sur le début de saison, cette froideur et ce côté un peu robotique où le gars, il est programmé pour gagner. Je ne peux pas m'expliquer qu'il s'effondre à ce point-là. Alors, tu as raison pour faire le parallèle avec ses saisons en F3. Probablement que mentalement, il est friable encore, il a beaucoup à apprendre. Mais je trouve que dans le body language et dans ce qu'il dégage, moi, personnellement, ça me surprend. Voilà. Après, encore une fois, on est dans les supputations et dans l'interprétation.
Attendons
le Brésil. Bah, les gars, du coup, on a fait très long là-dessus, mais il y a tellement de choses à dire. C'est tellement excitant qu'on a peu parlé de la perf de Verstappen, Jean-Luc, qui mine de rien, lui, est toujours là.
Il était même commissaire de course au Mexique.
C'est vrai.
Aussi. Il a commencé vendeur de tondeuse et après il a évolué, tu vois. Au tour 6, il était.
Mon Nico, la question c'est Verstappen avant de parler des Ferrari, parce qu'il y a quand même à dire aussi. Hein. Bon, on commence par Verstappen.
Commençons par Verstappen.
Allez, bah déjà, bon, c'est pas un circuit, même s'il a gagné à plusieurs reprises, hein, vous le savez, c'est pas un circuit où il était très très à l'aise récemment. On a compris là aussi en qualif qu'il avait pas trop la solution. Alors il se débrouille pas mal avec ce qu'il a, mais là aussi, bah, par rapport aux performances auxquelles il nous a habitués, hein, il est quand même plus qu'un ton en dessous. Il se fait même devancer par Russell. Bon, écoute, c'est moyennasse, hein, comme dirait Vincent. Après, au départ, bah, il tente un coup. Il est le seul en médium. Il est vachement surpris, d'ailleurs. Il se dit, je suis le seul à avoir choisi les pneus logiques. Tous les autres ont opté pour les softs, évidemment, avec logiquement un meilleur départ, une meilleure accélération. Après, ce qu'il dit aussi, c'est vrai qu'il se décale. Si vous regardez, là aussi, image par image, c'est toujours rigolo. Hein. Dans la ligne droite, il se décale parce que à chaque fois, il y en a un qui le pousse et lui, il se retrouve sur le vibreur. Alors là, évidemment, il ne peut plus tourner quand on déboule.
Et puis,
il ne
peut pas freiner.
Quand on déboule à plus de 300, effectivement, avec les roues en l'air, il a un petit peu de mal à ralentir. Donc, il part à l'extérieur. Bon, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Heureusement, personne ne se frictionne vraiment. Après, il reprend une place. On peut en discuter. Effectivement, Russell dit « il m'a piqué ma place ». Mais il était logiquement devant à ce moment-là.
Oui, ça ne me choque pas. Je ne suis pas choqué.
Il y avait Norris et les deux Ferrari. Russell, il était derrière. Bon, ça, ce n'est pas notre problème. C'est décision des commissaires, de la direction de course. On le laisse donc à sa place là. Et puis, alors après, il fait une stratégie décalée. Et ça aussi, moi, j'aime bien parce que à stratégie égale avec Norris, il sait qu'il n'a aucune chance et il a compris qu'avec les Ferrari, ça allait être compliqué. Donc, ils choisissent autre chose. Ce autre chose, bah, c'est de le maintenir en piste longtemps jusqu'au 38e tour et de lui monter les softs. Et là, il fait un festival à la Verstappen, hein, comme d'habitude. Alors, on est privé de dessert, comme tu l'as souligné, Arnaud. Ben oui, avec le VSC, on ne sait pas d'où il sort, là. Et en plus, il sort pendant un demi-tour. Enfin, c'est complètement ridicule. Bon, peu importe,
sachant
malheureusement.
Albon ou Sainz, j'ai un trou de mémoire. Sainz voilà. Ouais. Carlos se met bien en plus dans le dégagement.
Mais
l'intelligence de se dire, je ne vais pas foirer la course.
La FIA a expliqué que c'est parce que la voiture Carlos Sainz commençait
et qu'un Stewart a commencé et rentré sur la piste.
Il y avait un commissaire sur la piste.
Oui, comme il l'avait déjà fait une fois, deux fois, ça faisait trop.
Et vu ce qui s'est passé au tour 3 avec Liam Lawson. Voilà.
Alors après, on va dire qu'il y a peut-être une justice parce que ce coquinou de Max Verstappen a pas vraiment freiné au drapeau jaune derrière Charles Leclerc.
Charles Leclerc, il a même rigolé à la radio tellement que c'était cocasse.
Donc, quelque part,
On en revient juste à Verstappen, si vous permettez. Je termine là-dessus hein, et je vous laisse le micro, c'est le cas de le dire. Donc, en deux mots, il fait une course à la Verstappen. Il part quand même très loin. Et lui aussi, il dit « je ne m'attendais pas à monter sur le podium ». Moi non plus. Je pensais pas qu'il aurait été capable d'y monter. Bon, il fait, avec les moyens qu'il a et la stratégie adoptée, encore une fois, décalé par rapport aux autres, il fait du super boulot. Alors, on est privé de dessert. On ne sait pas si oui ou non il aurait passé Charles. Moi, je pense quand même que non, parce que Charles,
il en manquait
a du
un
métier.
Peu.
Ouais, je pense que ça se terminait comme ça. Mais bon, on aime à penser que peut-être, en tout cas, il préserve ses chances au championnat. Et comme Nico l'a précisé en ouverture, il remonte à 4 points. Il remonte de 4 points,
oui.
Puisque le leader n'a plus que 36 points
on
d'écart.
On était à 40.
Voilà, 4 fois 9, 36. Il faut qu'il arrive à reprendre 9 points au leader du championnat jusqu'au terme de cette saison. Voilà.
Moi, je suis d'accord. Je pense que même s'il y a eu cette virtuelle safety car, et il y a aussi la remontée de Piastri sur Berman, qui se jouait aussi à ce moment-là. Et je crois qu'il y a aussi Colapinto qui avait déclaré qu'il allait dépasser Pierre Gasly s'il n'y avait pas eu de virtual safety car. Vu quand tu es en fond de grille et en fond de classement, c'était peut-être pas nécessaire.
Les Alpines
comme
viennent de passer la ligne d'arrivée, on vient de me le dire à l'oreillette.
Alors, quelqu'un a déjà fait cette blague, c'était Louis Gerbier sur notre petit groupe WhatsApp où on prépare les émissions. Et je pense qu'il allait en manquer pour Verstappen parce qu'à un moment, il reprenait 6 à 7 dixièmes par tour à Charles Leclerc à 10 tours de la fin. On s'est dit qu'il allait pouvoir faire le contact et Charles avait magnifiquement géré ses pneus.
Et puis c'est Charles Leclerc et contre Max Verstappen.
En défense.
Souvent Charles Leclerc est quand même
sachant
l'un des seuls pilotes qui peut répondre à Max Verstappen.
Le moteur Ferrari est plus performant en ligne droite, donc dans le premier secteur. Et après, va
50e
suivre...
podium de Charles. Hein.
Exactement, qui est pas loin de dépasser, alors je sais plus qui j'avais vu au 55 podium, Barrichello je crois, ou... des pilotes comme ça, je crois. J'avais vu le tableau chez le diffuseur. Et donc, je pense que ça aurait été compliqué quand même pour Max d'aller chercher cette deuxième place. En plus, avec la partie sinueuse, on sait que c'est très compliqué de se suivre. Bon, il y a quand même ce qui s'est passé au tour 6, quand Max plonge à l'intérieur sur Lewis Hamilton. Alors, la FIA a dit on ne sanctionne pas parce qu'on juge qu'au point de corde, il est devant. Et moi, la manœuvre, si tu as mis 10 secondes à Lewis Hamilton... J'ai pas compris pourquoi on n'a pas sanctionné Verstappen où là il a freiné trop tard et il a envoyé
mais c'est cette nouvelle règle qu'ils ont instaurée au milieu de saison
là leader,
où soi-disant il faut à chaque fois t'es leader en gros tu peux arriver à Mach 12 dans le virage ne jamais prendre le virage mais être leader au point de corde et ça te fait passer. Non, moi ce que j'ai été impressionné par Max Verstappen c'est j'ai eu déjà au premier tour il est à rien mais à rien d'arrêter tout son championnat. C'est-à-dire qu'il est je pense qu'il passe même pas à un mètre du mur de Tech Pro et de la foutre dans le mur, mais à une vitesse, parce qu'il n'y a que lui qui peut passer dans l'herbe, presque flat out.
C'est... la récupérer,
c'est vrai.
Non mais, donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il débranche quelque chose dans son cerveau et on retrouve un Max Verstappen de Espagne cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec George Russell, où il perd beaucoup de points, et où je pense qu'il a déconnecté quelques capteurs dans son cerveau et on a retrouvé un Max Verstappen presque de 2015, j'ai envie de dire, où il n'a rien à perdre et où il envoie des attaques. Mais à la fois, c'est un côté exceptionnel où il revient sur Charles Leclerc du tour 49, j'avais vu, jusqu'au tour 69, il a 13 secondes 5 d'écart, il revient dans la seconde. Donc sur des pneus soft, alors qui ont bien marché sur ce week-end, c'est ceux qui marchaient le mieux, mais tout de même. Et en fait, on a eu un Max Verstappen un peu cerveau déconnecté. Parfois, c'était quand même limite. Entre Biermann, c'est pareil. Il a failli une nouvelle fois la perdre dans cet enchaînement de virages tout en appui dans la section serrée. Mais un Max Verstappen qui, pareil, limite la casse après une qualification pas forcément réussie et qui, bah, on l'a dit, comptablement parlant, il reprend 4 points au leader du championnat,
et
même s'il termine
perdre.
Derrière. Et rien
et
à
bah
perdre.
Oui. Et Tristan, pour rebondir sur ce que tu dis, il l'a dit, moi, je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Bon, il se sort, il accroche quelqu'un, il prend une pénalité, bon bah c'est loupé, c'est foutu, là du coup il sera pas champion du monde, là il peut toujours l'être et même peut-être presque, bon enfin faut relativiser par rapport au nombre de grands prix en jeu, hein. Il avait 40 points de retard sur 5 grands prix, ça faisait, bah, le calcul est simple comme tout le monde, 8 points par grand prix, maintenant il en a 36 sur 4 grands prix, ça fait 9, bon bah voilà, ça devient de plus en plus difficile, mais c'est possible.
Et il envoie,
ouais, sachant qu'il y a 2 sprints.
Et il envoie un message quand même à tout le monde, c'est-à-dire que même sur un week-end compliqué, il termine sur le podium. Ouais. Il termine sur le podium. Et j'ai envie de noter aussi dans la performance de Max Verstappen le regain de performance encore une fois de Red Bull, qui même dans un week-end compliqué, alors on a vu Yuki Tsunoda qui malheureusement a eu un arrêt très long, mais qui faisait une excellente course et qui a en fait aidé Max Verstappen. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un second pilote Red Bull aider Max Verstappen dans sa bataille avec Russell, Antonelli et Piastri.
Bah, il a ralenti du monde.
Il est resté en piste uniquement pour faire ça et il l'a très bien fait. Ouais, mais Red Bull a encore une fois montré que c'était une grande équipe, encore plus sous Laurent Méquies, parce qu'ils ont eu un déclic, j'ai l'impression, parce que faire ce choix stratégique.
En fait, c'est redevenu
osé,
une équipe.
C'est redevenu
dans
une
tous les
équipe.
Sens du terme.
Et faire ce choix stratégique osé. Non, mais. Bah, y a une symbiose entre, on a l'impression, entre les ingénieurs, le pilote.
Sens, là, on parle plus de clan, vrai, hein.
Mais tout le monde se comprend. Ouais. Et ça,
est-ce que t'entends le papa Verstappen?
Non, mais
on l'entend
voilà,
plus.
C'est ça, il y a plus de.
Bah, oui, mais non, mais.
Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une déclaration d'Helmut Marko, de je sais pas qui, chez Red Bull, qui dit, qui critique ou qui sort une phrase choc? Bah, ça fait depuis que Laurent Méquies
est arrivé. Ah, bah, Laurent a apporté beaucoup de sérénité, hein, c'est clair.
Donc, moi, c'est aussi ce que je voulais noter sur ce week-end. C'est, alors, le. Max Verstappen qui fait un bon Grand Prix après une qualification un peu ratée à cause de la performance de Red Bull, et puis Red Bull aussi qui montre qu'ils sont encore présents, quoi, et que l'année prochaine il faudra compter sur eux si la voiture a du rythme.
Et Tsunoda est là,
termine.
Hein, on en dira peut-être un mot maintenant, mais Tsunoda, malgré tout, bon je sais, il part 10, il termine hors des points, mais comme l'équipe l'a dit aussi, ça dépend, et tu viens de le souligner Tristan, t'as mis le doigt dessus vraiment, ça dépend ce qu'on lui a demandé, comment et pourquoi, hein. Donc, quelque part, il termine hors des points, mais peut-être aurait-il pu terminer 8 ou 9.
Vous avez vu, savoir. Tsunoda, 9. C'est comme Alonso sur les consignes d'équipe. Faudra en parler.
C'est comme Colapinto.
Alors, les gars, juste, on va terminer un petit peu ce chapitre de la lutte pour le titre. Juste, Jean-Luc, quand même, mais cette fin de saison, elle s'annonce. Enfin, ce Grand Prix du Brésil, en tout cas, parce qu'on va pas se projeter plus loin que le Grand Prix du Brésil. Mais
prends les Grands Prix les uns après les autres.
Là. Ouais, voilà. On prend les Grands Prix les uns après les autres. Mais non, mais ce qui se passe là, 36 points. On vient de faire 40-45 minutes de podcast, rien que pour débriefer cette lutte entre Norris, Piastri et Verstappen. C'est quand même incroyable ce qu'on vit là sur cette saison, sur cette fin de saison 2025.
Écoute, mon Nico, c'est génial. Moi, sincèrement, j'y reviens. Hein. Là aussi, je veux bien qu'on qualifie. Tu sais, on juge toujours à l'emporte-pièce. Mais moi, je suis pour le sport, une nouvelle fois. Je pense que c'est notre rôle. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le combat des hommes. Alors, bien sûr que parfois, il y a des éléments extérieurs, incontrôlables ou contrôlables, peu importe. Mais là, on a un suspense préservé. Alors que ce n'était pas évident. Hein. On a un suspense préservé. On a 3 pilotes, allez, on va le dire, en bagarre, avec un écart de points qui est réduit, et comme vous le dites très justement, le Brésil, il peut pleuvoir là-bas, il pleut souvent à cette saison, ça peut encore perturber encore un élément supplémentaire à contrôler. On a vu l'an dernier cette course fantastique, hein, et on leur rend hommage de nos deux Français de chez Alpine à l'époque, qui montent sur le podium et qui sauvent carrément la saison d'Alpine sur une course. Donc là, tout peut arriver, donc c'est formidable, oui, c'est
enthousiasmant. Il se passe beaucoup des choses à Interlagos généralement, hein.
Oh oui, ouais. Toujours. C'est un circuit, là aussi, à l'ancienne, hein, sinueux, délicat. Il y a des endroits où il ne faut pas sortir. C'est un circuit pour pilotes très courageux. Voilà.
J'espère que les McLaren sont accrochés, parce qu'il y en a dans une Red Bull, là, c'est peut-être l'un de ses week-ends préférés, parce qu'au-delà des conditions météorologiques, je crois que ce circuit, c'est juste...
De faire l'extérieur, dans les S de Senna.
Il va passer, peu importe où c'est. Quand on voit 2021 sur le sec, quand on voit l'année dernière ça remonter sous le mouillé, il trouvera un endroit où passer, ça j'en doute absolument pas.
Et on rappelle que c'est une course sprint, hein, c'est un week-end sprint, hein, le Brésil. Donc il y a
encore plus de points.
Est-ce que vous pensez que Felipe Massa va encore réclamer son titre comme tous les ans.
Bah, est-ce que Ferrari va réclamer son titre sur la McLaren l'année dernière aussi? C'est une bonne question.
Oui,
ça.
Oui. Bon,
bah. Tiens, bah, allons sur la Scuderia. Mine de rien, qui va mieux. Deuxième place de Charles Leclerc, Arnaud. La Scuderia qui avait fait une super séance de qualif, hein, avec Leclerc qui partait deuxième et Lewis Hamilton troisième. On voyait d'ailleurs peut-être se profiler le premier podium de Lewis Hamilton sur un Grand Prix avec la Scuderia Ferrari. Ça, c'est mal goupillé pour lui dans cette lutte avec Verstappen et cette fameuse pénalité dont t'as parlé, sur laquelle il va falloir revenir, mais ça reste un week-end extrêmement positif pour la Scuderia, Arnaud, et on se dit que Ferrari est un petit peu l'arbitre de cette fin de saison aussi, et ça rajoute encore un peu de sel à cette fin de saison 2025.
Ah bah, Ferrari qui est désormais la deuxième équipe au classement des constructeurs pour un petit point. C'est un autre championnat un peu moins, évidemment, strass et paillettes par rapport à celui du classement des pilotes, mais ils ont un point d'avance sur Mercedes et 10 points d'avance sur Red Bull. Donc ça, on le dit souvent, c'est beaucoup d'argent, chaque place gagnée dans ce classement des constructeurs. Charles Leclerc, il a fait presque la même course que Lando Norris, mais avec une voiture un chouïa moins performante, parce qu'il fait quand même un excellent tour en qualification. Il est certes à 3 dixièmes de Norris, mais quand tu vois la performance de Norris et la maîtrise, et Charles Leclerc ensuite en course, alors ok, il n'a pas pu suivre le rythme de cette McLaren pour diverses raisons, meilleure voiture, et puis également ce clean air, donc forcément ça fait 30 secondes à l'arrivée, mais il a parfaitement maîtrisé sa course, sa gestion des pneus. On l'a dit, c'est pas parce que Verstappen fonçait sur lui à la fin qu'il aurait lâché cette deuxième place. Lewis Hamilton, il y a sa pénalité de 10 secondes très sévère, je sais pas, parce qu'il a quand même gagné beaucoup d'avantages en piste, et quand il sort, alors il y a eu deux enquêtes, c'est où il a pas pris le petit chemin, alors il est un peu ridicule ce chemin, parce qu'en plus il te fait un angle droit,
le chemin est plus fin que la largeur,
exactement, j'étais là, mais c'est quoi ce chemin,
il a pas pris de chemin.
Donc qu'il le coupe un peu comme ça, c'est pas le problème, c'est qu'effectivement il ressort vraiment devant tout le monde à ce moment là bon, les 10 secondes après, c'est sûr que ça le fait chuter, mais on a trouvé des Ferrari, on a retrouvé de la cohérence, je trouve, quand même, sur ce Grand Prix. On n'est pas parti un peu à droite à gauche, et les deux pilotes ont fait, il y a les 10 secondes d'Hamilton qui coûtent un petit peu en points évidemment, mais bon, une équipe cohérente pour une fin de cycle et fin de réglementation. On sent que les deux pilotes ont l'envie d'aller chercher cette deuxième place constructeur, qui serait voilà, pour la Scuderia, quand même un très bon bilan, hein. Quand tu es deuxième au constructeur derrière McLaren qui rassemble tout, tu es devant notamment les Mercedes. Ça serait limite la position, compte tenu du deuxième baquet Mercedes et du deuxième baquet Red Bull. J'allais dire, c'est presque une obligation que Ferrari soit deuxième, et ça serait normal.
Que de regrets.
Surtout quand tu vois leur perf encore il y a un mois. Juste, Tristan, avant de te donner la parole, on va écouter Charles Leclerc sur cette deuxième place.
Bah, du deuxième tour à l'avant-dernier tour, c'est une course plutôt normale, mais le premier et le dernier tour ont été particulièrement difficiles. Le premier pour le départ, parce qu'à trois fronts, je m'y attendais un petit peu. Je voulais faire un bon départ, malheureusement je ne l'ai pas fait, mais finalement je pense que ça m'a plutôt aidé, parce que grâce à mon mauvais départ, j'ai réussi à avoir l'aspiration de Lando qui m'a un petit peu aidé à récupérer. Mais bon, ensuite Lewis était à l'intérieur, je pense qu'il ne savait pas que Max était à l'extérieur. Max a essayé quelque chose qui était un peu à la limite, et donc du coup ça fait que quand c'est comme ça, c'était très chaud, mais bon, c'est comme ça. Enfin, c'est le sport auto, hein. Je reproche rien à personne, mais c'était juste un moment de la course où je pensais que ma course pouvait se terminer dans ce premier virage, parce que j'étais entre les deux et je pouvais pas faire grand chose. Mais heureusement, on a réussi à terminer cette course et avec un très bon résultat.
Voilà, Charles Leclerc au micro de Canal+. Tristan, cette perf de Ferrari là, ça contribue au fait que cette fin de saison aussi elle soit excitante. Hein, revoir la Scuderia, revoir Charles Leclerc sur les podiums, voir aussi un Lewis Hamilton capable de se bagarrer pour un podium avec Ferrari, c'est cool, tout simplement.
Mais que de regrets de pas voir la Scuderia Ferrari pouvoir jouer avec cette monoplace toute la saison à cause de ce lift and coast et surtout de cette usure de la planche, parce que quand on voit leur performance ce week-end, il n'y a rien à envier à avoir la deuxième meilleure monoplace du plateau, et sur certains grands prix aller titiller les McLaren. Si seulement il n'y avait pas ce problème de justement toujours gérer la voiture, il y a encore eu ce problème, mais au Mexique on l'attendait un peu de Lico, où aussi Charles Leclerc n'a pas pu développer tout le potentiel de sa monoplace parce qu'on lui a demandé très rapidement de faire du lift and coast. Mais quand on voit ça, quand on voit l'interview, enfin, on n'a pas l'image, mais on a juste le son. Rien qu'à entendre Charles Leclerc, il a la banane, alors qu'il fait au final une deuxième place à 30 secondes du leader. Mais il a la banane. Et ça montre à quel point, en fait, bah, sur la saison, c'est une mauvaise saison Ferrari. Mais il y a tellement d'espoir à chaque fois que, en fait, à chaque fois, on veut nous faire espérer avec la Scuderia Ferrari.
J'ai peut-être enfoncé une porte ouverte, mais est-ce que le moteur Ferrari, c'est pas le meilleur de la grille ? Quand tu vois en plus la Haas avec Berman qui est là, sur cette fin de saison.
Probablement, ouais, mais en même temps, les moteurs n'ont pas beaucoup changé depuis de nombreuses années. Donc, puis voilà, petits accords Concorde aussi, on se souvient aussi, voilà, depuis 2019. Mais, non, mais après, un week-end très positif pour Ferrari, pour Lewis Hamilton. Pareil, Lewis Hamilton qui dit qu'il a trouvé, comme Charles Leclerc, quelque chose sur la voiture pour mieux la comprendre du moins et mieux pouvoir l'exploiter. Ça se ressent dans son tour de qualif. Cette pénalité, pour moi, est ridicule, tout simplement parce que si... En fait, l'explication des commissaires, c'est que Lewis Hamilton gagne un avantage. Donc, sur le virage 3, il est devant Max Verstappen. Sauf que s'il est devant Max... il est derrière Max Verstappen, pardon, et ensuite, il passe devant à la sortie du virage 5. S'il l'est, c'est parce que Max Verstappen coupe le virage 3, enfin, sur le virage 4, du coup, coupe le virage 3 parce qu'il sort dehors Lewis Hamilton. Donc, en fait... Lewis Hamilton gagne un avantage parce que juste avant, Max Verstappen le sort et qu'il ressort forcément derrière lui après le virage 3 parce que Max Verstappen l'a coupé dans l'herbe. Donc pour moi, cette pénalité, elle est un peu ridicule, mais on a l'habitude depuis le début de la saison avec la FIA et puis même depuis plusieurs années, donc ça ne me choque pas. Mais le problème, c'est que ça ruine la course d'un pilote et que Ferrari perd des points. Au final, ils auraient pu enfoncer le couteau sur Mercedes plus que juste passer devant. Là, il n'y a qu'un point. Mais en tout cas, ça nous offre une belle fin de saison pour la deuxième et troisième place du championnat, qui va être intéressante. Et puis, Ferrari arbitre au final de...
Cool.
Ah bah ça, c'est carrément cool, parce qu'en plus, on a des pilotes, c'est pas des peintres au volant de la Ferrari, hein, c'est Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Donc, ils peuvent sortir une petite surprise sans souci sur les prochains Grands Prix.
Ouais, meilleur perf égalé pour Charles Leclerc, hein, qui avait terminé deuxième à Monaco. Sinon, la Scuderia n'avait pas signé d'autres deuxième places cette saison. Jean-Luc, on va quand même écouter Lewis Hamilton au micro de Charlotte Gabas encore sur Canal, parce que, bon, bien évidemment, elle vient le titiller sur cette pénalité, et on le sent profondément agacé, le septuple champion du monde.
You understand the situation, the incident and the penalty. You guys
what happened l'incident et la pénalité.
Non. Can you just explain a little bit?
Vous pouvez nous donner des explications? Pas vraiment, je comprends pas, franchement.
Did you have the opportunity to watch again the images?
Est-ce que vous avez revu les images?
I haven't seen. I let you just go change. So
je les ai pas vues. Je suis juste allé me changer, mais ça importe peu. Je sais ce qui s'est passé. Je sais comment la course s'est déroulée.
I don't care. I move forward.
Je m'en fiche. J'essaie d'aller de l'avant.
At the bigger picture, what positive?
Qu'est-ce que vous retenez de positif de ce week-end?
Not a huge amount.
Pas grand chose. Voilà, Lewis Hamilton
très
qui
agréable.
Était en froid glacial. Et la pauvre Charlotte Gabas, Charlotte qui essaye de relancer à chaque fois.
Oui, mais
parce que Jean-Luc, tu sens que pour le coup, il fait un beau week-end, il met tout en place. Tu sens qu'il y a ce podium qui est en train de se matérialiser pour lui et qui représente beaucoup de choses d'un point de vue mental aussi, qui valide aussi des semaines de galère. Et il y a tout qui s'effondre sur cette décision, sur ce fait de course.
Bah écoute, il y a un redressement très net de ses performances là depuis deux trois grands prix, hein, surtout les deux derniers évidemment. Il est très très proche de Charles. Il est à moins d'un dixième en qualif, ce qui est absolument remarquable. Je crois que ça lui est jamais arrivé. J'ai pas tout vérifié, mais je crois jamais à ce point-là, quoi, être aussi proche, à part problème majeur pour l'un ou pour l'autre. Hein, mais je veux dire là à la régulière, c'est vraiment génial. C'est du super boulot. Moi aussi, j'y ai cru au podium, hein, vraiment. Et je me suis même dit, s'il est au bon endroit au bon moment, en fonction du freinage du premier tour, et tu vois, c'est pas passé loin. S'il se retrouve devant, sait-on jamais ce qui peut arriver. Alors oui, la pénalité, Tristan, bien sûr, elle est trop lourde. Ne devait-il pas y en avoir? Pour moi, si, peut-être une de 5 secondes. Mais alors, aurait-il fallu en donner une à Verstappen aussi? Oui, pourquoi pas.
Oui, moi je suis d'accord, oui.
Voilà,
moi,
après, on peut en discuter. Là, c'est vraiment de l'interprétation. Effectivement, les décisions du Collège des commissaires et de la FIA ne sont ni constantes, ni logiques, ni parfois compréhensibles. Donc, je comprends aussi son irritation. Il fait un Grand Prix correct avec. Alors quand évidemment Fred, que j'adore, Fred Vasseur, à l'arrivée dit oh bah sans ça on terminait quatrième, je suis pas sûr du tout. Hein. Je pense qu'effectivement il pouvait terminer devant les deux Mercedes, oui ça très probablement. Après le quatrième c'était devant Berman, ça je suis pas certain. Et pour les raisons que vous avez évoquées.
Un petit coup de fil, écoute Oli.
Oui. Hein. Voilà, mais j'allais dire voilà ils ont le même moteur.
Pense futur Oli.
Oui, vraiment, ah bah oui bon ne parlons pas de ça. En tout cas c'est une renaissance pour la Scuderia. Les revoir au deuxième rang, c'est formidable. Alors maintenant, moi, vous me voyez venir. Je vais prier pour quelque chose avant la fin de la saison. Bah, c'est une victoire, évidemment.
De qui ?
Une victoire de la Scuderia, ce serait quand même fabuleux. Charles, là, je ne vais pas le faire au mérite non plus, mais il a quand même 7 podiums hein, dans les conditions que vous venez de décrire. Bah, il ne manque plus que la plus haute marche, on est d'accord.
Une victoire de Charles, du coup, ou de Lewis ?
Ah ben bon, les deux, ce serait formidable. Mais bon, moi, je plaiderais quand même pour celle de Charles parce que 7 podiums, et puis il est quand même...
Une victoire de Lewis à Abu Dhabi qui prive Max Verstappen du titre de champion du monde.
Ah ouais. Non, puis quand même, au championnat, il y a un sacré écart de points. Il faut oser le rappeler. Il y a quand même 64 points d'écart. C'est pas rien, hein, entre Charles et Lewis, même s'ils se suivent.
C'est pas rien. On a parlé d'Oli Berman. Allons-y. Et Oli Berman qui égale la meilleure performance de Haas en Formule 1 avec cette quatrième place. Il était dans les bons coups. Berman, Arnaud, il a su gérer ce départ ultra chaotique pour faire une remontée folle. Et puis surtout, Haas a retrouvé de la performance depuis Austin. On sentait un Esteban Ocon un peu dépité à chaque fois qu'on l'entendait, nous, dans le paddock RMC, parce qu'il ne comprenait pas la voiture, il ne comprenait pas ce manque de performance. Là, ils étaient bien ce week-end.
Alors, que la Haas soit performante, ça fait quand même quelques grands prix. On voit Berman se hisser en Q3. Donc, on sentait que cette équipe travaillait bien, avait compris beaucoup de choses. Et ce n'était pas surprenant de voir Berman à chaque fois être dans les points ou être dans les 10 premiers. Là, franchement, j'ai pu suivre dans de bonnes conditions ce grand prix, c'est-à-dire d'avoir le live timing, donc tous les temps, et le rythme qu'il avait. Chapeau ! Ouais, chapeau génial. Quand même à bord de cette Haas motorisée Ferrari. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, parce qu'à un moment, on avait Charles, Berman et Hamilton, et tu voyais donc dans les 4 premières positions les 3 moteurs Ferrari. Donc évidemment, quand tu es à cette grande ligne droite et ensuite dans le premier secteur où tu as la puissance moteur, tu en as besoin, ça a aidé. Et chapeau, on voyait le papa, souvent la réalisation internationale mettait beaucoup de plans sur le papa. Ça confirme l'excellente fin de saison de Berman. Et en plus, c'est venu ajouter un très bon Esteban Ocon qui, c'est alors pas mis au niveau de Berman, mais c'est mis aussi à son niveau où lui, a pu être présent parce qu'on le voyait beaucoup plus en retrait. Et ça nous faisait évidemment un petit peu de peine. Et là, j'ai trouvé que sur ce Grand Prix, il a fait une bonne course. Alors Berman a eu des circonstances un peu plus favorables puisqu'il est parti... il est parti 9 et Esteban 11, mais les circonstances de course ont fait que Berman a pu avoir un peu plus d'air frais et a pu enquiller de meilleurs temps, mais Esteban a fait une course solide et il est dans les points, et donc ça c'était une super nouvelle. Je suis content aussi de ce Grand Prix pour Esteban Ocon. Il y aura peut-être d'autres opportunités, mais je trouve que notre pilote français chez Haas a relevé la tête alors que son coéquipier lui donnait un peu quelques migraines, je trouve, ces derniers temps, parce qu'il était plus performant que lui.
Ouais, on l'écoute, Oli Berman, au micro de Canal.
Very special feeling, you know, to bring Haas's joint best results. Very
super spécial que d'égaler le meilleur résultat de Haas.
Honestly, we actually did a great race.
On a fait une super course.
Went how I would have liked, so yeah.
Tout s'est passé comme je le voulais,
lucky,
puis j'étais très chanceux d'être placé aussi haut.
In a position to have clean air, but,
et puis d'avoir la possibilité d'avoir l'air clean. La voiture était vraiment très rapide. Aujourd'hui, alors au classement du championnat, Berman est passé devant Ocon, Jean-Luc. Pas de beaucoup, mais il y a 2 points d'écart entre Berman et Ocon.
Absolument, 32 pour Berman et 30 pour Ocon. Écoute, ça fait beaucoup, pas mal de temps qu'on dit beaucoup de bien de ce jeune Britannique. Hein. Il est vraiment tout jeune. Je crois qu'il a à peine 20 ans, il a à peine eu ses 20 ans là. Il est vraiment hyper rapide, il est constant, il est sérieux. Et puis comme Arnaud vient de le rappeler, devancer quand même à la régulière comme il l'a fait Ocon, tant en qualif qu'en course, là, depuis un petit moment. Bon, même si Esteban, heureusement, avait marqué des bons points. Mais là, c'est vrai qu'Esteban, il marquait un peu le pas, là, depuis 4-5 Grands Prix. Bon, ça lui fait beaucoup de bien de revenir dans les points. Mais l'exploit, c'est Oli Berman qui le fait. Hein. En plus, un temps en course. Alors, vous savez, une nouvelle fois, j'adore ça. Mais une 20-705, je crois que dans l'absolu, c'est le troisième ou quatrième meilleur temps absolu, donc effectivement, c'est remarquable ce qu'il fait. Donc il est constant, c'est à la fin. Alors il a sûrement un bon moteur, sûrement un bon châssis, sûrement eu beaucoup de chance au début, mais quand même, là il faut le talent. Là pour moi, bon, il monte pas sur le podium, hein, mais on va dire que c'est tout comme. Et puis vous avez vu la joie à l'arrivée, quoi, ça fait du bien. C'est la plus petite équipe et de très loin en termes de budget, de composition de personnel, de tout ce qu'on veut. Et moi, cette joie me met en joie, c'est le cas de le dire. C'est, en plus, c'est une équipe américaine en attendant l'arrivée de la vraie, la grosse. Et puis, ça les remet dans le coup. Hein. Au championnat, l'équipe 62 points. Devant elle, il y a Aston Martin 69 et on peut même penser à Racing Bull 72. Il n'y a que 10 points d'écart. La sixième place n'est pas inenvisageable hein, au final s'ils continuent sur cette lancée. Donc, superbe résultat d'ensemble de l'équipe, et particulièrement pour Oli Berman, il faut le signaler aussi, c'est lui le pilote du Grand Prix, hein, à 40%, hein, il y a rarement eu des scores comme ça. Donc, tous ceux qui ont voté pour lui, le pilote du Grand Prix, j'en suis absolument ravi. Je pense qu'il est promis à un magnifique avenir.
Et je trouve ça très cohérent ce que fait Haas, et on peut saluer le team principal, qui n'est plus évidemment Gunther Steiner, mais Hayao Komatsu, qui est passé par chez Renault
mieux,
dans les années 2000.
T'as remarqué.
Et moi, je trouve qu'avec les moyens qu'ils ont, c'est cohérent. Et est-ce qu'ils vont pas aller chercher Aston Martin au classement des constructeurs, parce que là aussi il y a de l'enjeu en bas, on en a parlé, moi je vais être Aston
sous les yeux. Si Fernando Alonso continue à faire les mêmes courses qu'il fait depuis quelques grands prix,
incroyable.
Alors Gunther, peut-être une explication sur ses performances de Haas.
Je l'ai pas là, le Gunther.
Tu l'as pas, Gunther.
On a parlé d'Alonso pour que tout le monde comprenne. On lui demande de laisser passer Stroll. Ouais, il laisse passer Stroll, je crois, dans le premier secteur. Après, il se met à faire des drifts.
Ouais, il fait deux burns en sortie de virage.
Et après, il rentre au stand sans prévenir personne.
Il n'y a personne qui est au courant, c'est-à-dire que lui, il s'arrête. Il n'y a personne autour de la voiture, il a déjà retiré le headset et tout.
Headset, enfin,
il en a ras le bol. Lunaire, cette fin de saison de Fernando Alonso. Et,
il peut rester. Il y a une nouvelle voiture qui arrive, il y a Adrian Newey, mais t'as l'impression que si on changeait pas de réglementation, tu dis oui, il va partir.
Ah ouais, bah là, de toute façon, là, les grands prix qu'il est en train de nous sortir.
Et là, ça se trouve, essaie de pré-saison, il va voir que ça marche pas, il va dire allez.
Je suis désolé, mais on a beaucoup parlé de Lance Stroll, on a beaucoup critiqué sa façon d'être dans les médias, etc. Fernando Alonso, sa façon d'être.
C'est limite, là.
C'est encore une fois, on est en train de revivre la même chose qu'avec McLaren en 2007, où il est en train d'insulter littéralement. J'ai l'impression, enfin, c'est une impression extérieure, mais il insulte toutes les personnes qui travaillent à l'usine. Enfin, quand il fait ça, il y a juste un manque de respect total à tous ceux qui, sur un week-end de course, il y a 300 ingénieurs en Angleterre qui se cassent quelque chose pour réussir à avoir une voiture performante. Alors oui, ça ne marche pas forcément. Et lui, il balance un peu la course comme ça.
C'est pas digne de son statut. De...
Non, franchement,
c'est meilleur pilote.
On a presque, l'habitude avec lui, malheureusement. C'est ça le problème.
Il n'est pas défendu.
Et tiens, pour revenir sur Aston,
le taureau des Asturies.
Ouais. c'est ça. Aston qui a fait zéro ce week-end et As qui est repassé du coup devant Sauber. Donc voilà, il y a cette lutte là pour la sixième place. 12 points d'écart entre Racing Bull, Aston Martin, As et Sauber. Ça aussi, c'est chouette comme bagarre.
Et Alpine, il lutte avec qui ?
Pour le midfield.
Tiens, avec on va BWT, c'est le sponsor.
Juste avant,
il lutte pour le garder. Pour le garder.
Franchement, ça commence vraiment à me faire de la peine, en fait. C'est...
Oh, ouais. C'est... Non,
alors
mais
attendez,
ça,
les gars,
c'est
juste, je voulais qu'on écoute Ocon, parce que ça faisait quelques temps qu'on le voyait un peu en dépression, Esteban Ocon, dans le podcast. Et là, il avait la banane, et ça fait plaisir d'avoir un Français qui a la banane.
Ouais, c'est très très bon pour l'équipe, très content. Je pense qu'on avait vraiment la vitesse et c'était un bon week-end. Je pense qu'on gagne une place au championnat constructeur, donc c'est encore plus positif de ce côté-là. Donc voilà, content de ma course aussi. Je pense que c'était solide, mais bravo à Oli, bravo à toute l'équipe. Et voilà, je pense qu'on est dans un bon moment où il faut qu'on continue à scorer sur ces dernières courses. Et je pense qu'on va continuer dans cette direction. Et on a beaucoup appris ce week-end, donc je suis plutôt content.
Voilà, en plus toujours corporate et tout, Esteban Ocon, toujours un super coéquipier. Allons sur Alpine. Bah, vous savez quoi, avant de débattre, Arnaud, là, de te redonner la parole parce que tu disais que ça te faisait de la peine, j'ai l'impression que Pierre Gasly aussi, ça lui fait de la peine et bon, il compte les jours, lui, clairement.
Ça fait un de moins pour cette année. Hein. Un grand prix en moins, on se rapproche de 2026, donc... Je comprends pas forcément pourquoi on a fait autant de tours en médium, et après j'ai dû faire 37 tours en soft. Donc on va essayer de voir avec l'équipe. Après bon, c'est sûr qu'on était dans des positions qui n'étaient pas forcément très intéressantes, mais je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher un peu mieux en course que ce qu'on a fait avec nos stratégies. Ouais. Il faut rester. Je suis encore motivé, entièrement motivé. Après, c'est sûr que je ne vais pas dire que je prends du plaisir à me bagarrer en fonderie à 32 secondes des temps. Donc, c'est sûr qu'on travaille. On essaie tous de donner le maximum. Mais voilà, je suis très clairement pas le seul. Et c'est à moi de motiver tout le monde dans le garage. Donc, c'est sûr que là, en sortant de la voiture il y a 30 secondes, je suis un petit peu déçu de notre performance en global. Mais voilà, on va se regrouper tous ensemble. Et il reste encore 4 courses. Et on va essayer à chaque séance d'aller chercher mieux. Mais c'est sûr que le temps, il est long quand on est. Quand on est aussi peu performant.
Pierre Gasly avec Canal, il est bon quand même. Hein. Tu vois, il est bon parce qu'il arrive à balancer des messages. En gros, j'en ai ras-le-bol. Mais tu vois, il a quand même ce côté leadership, leader de l'écurie. Je dois emmener tout le monde. Il faut qu'on reste ensemble. Arnaud, c'est bon, sa première déclat. Quand il dit ouais, un de moins pour cette année, quand même, c'est dramatique d'entendre ça.
Bah, c'est la résignation totale. J'étais en train de regarder la dernière Q2 d'Alpine. Alors, il y a eu un sprint à Austin. Pierre passe, mais sur une qualif de la vraie course, comme dirait Jean-Luc. Si je ne m'abuse, je suis vite remonté, j'ai Monza. Non, pardon, Zandvoort.
J'allais dire Pays-Bas, ouais.
Zandvoort.
Pays-Bas.
C'est la résignation et... Ok, on pense à 2026, mais de là à être la pire écurie du plateau, il y a quand même une limite, on peut se battre et... Il le dit, c'est OK, voilà, on va mettre les ressources sur 2026, on sait, mais là, on peut pas bazarder comme ça, une fin de saison comme ça, ne pas tenter des choses, ça reste du sport auto.
On parle pas de Haas, hein, on parle d'un constructeur qui essaye de vendre des voitures quand même. C'est ça qui est d'une tristesse absolue.
Il y a une marque.
Et heureusement que c'est
et
Flavio.
La fin de Renault, quelle pitié.
Heureusement que c'est Flavio Briatore qui il faut pas dire de bêtises dans les médias, parce que sinon, si c'était encore Bruno Famin, je pense que Pierre Gasly il aurait tout envoyé voler sur la. Comment c'est possible de garder son calme avec une voiture à un niveau aussi catastrophique?
Oui.
Alors malheureusement, en fait, le problème c'est qu'on le sait. Parce que depuis 5 Grands Prix, en gros, on sait qu'Alpine a tout laissé bazarder et que là, c'est juste faire des Grands Prix pour faire des Grands Prix. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse! Parce que au final, on regarde une action et on voit, je ne sais plus qui, je crois que c'est la bataille entre Piastri et les Mercedes ou Biermann. Et il y a deux Alpines qui sortent de nulle part à un tour, qui sont en train de se battre entre elles. Et on regarde, et ah oui, 30
enfin
secondes.
Enfin non, parce qu'il y a des consignes, oula.
Oui, ah oui, et puis il y a
oula.
Des consignes.
Il y a
oula,
des, y a
des consignes,
consignes
pour faire
hein.
P19 et P20. Enfin,
ah c'est oui, d'une, ne réitérons pas le problème d'Austin, s'il te plaît.
En fait, ce qui est encore plus triste, c'est, enfin, pour moi, je vais mettre le point là-dessus, c'est qu'on ne parle pas d'une écurie qui ne joue pas des enjeux économiques importants comme on pourrait l'avoir avec Haas, où au final, bah, forcément, Haas a un intérêt à être sur le devant de la scène, mais moins qu'un Alpine qui, encore une fois, faire la course le dimanche, vendre des voitures le lundi. En gros, c'est ce pourquoi Alpine est là et pourquoi Renault Sport est devenu Alpine aussi. Bah, quand je vois ça, moi, j'ai pas envie d'acheter une Alpine, hein, parce que waouh, le niveau est montré et catastrophique.
Ni une Renault avec la finition esprit Alpine.
Bah, aucun, rien.
Figurez-vous que je roule en Renault,
bah ouais,
non, hein, parce que voilà, je suis un peu patriote sur les bords et je n'ai pas pris la finition esprit Alpine. Tu vois, pour tout savoir, c'est beau.
Sur
ma nouvelle
pourquoi
voiture.
Pourquoi ça alors?
Non, parce qu'il y avait mieux.
Résultats
il y avait mieux. Il y a iconique, tu vois, c'est mieux. Non, mais ça fait mal au cœur parce que voilà, on n'a pas envie de les voir là. Et quand je vois Colapinto dire. Répondre à la question. Et si la question qu'on lui pose, c'est s'il n'y avait pas eu une virtual safety car à la fin, vous auriez passé Pierre Gasly? Oui, oui. Je dis, mais calme-toi, ce garçon. Enfin,
il a eu 70 tours pour le faire.
Bien sûr que non, mais il avait la consigne de ne pas le faire. Bah, vous le savez, enfin. Et comme il sait que son contrat est reconduit parce qu'il apporte le fric, enfin, là aussi, c'est un secret de polichinelle, on est bien d'accord.
Moi, c'est plus, ouais. C'est pas tellement parce que ça reste un pilote où on sent. Il y a des choses intéressantes chez Colapinto. On l'a un peu raillé parce que moi j'ai trouvé qu'en fin de saison dernière il y avait une hype, justement au moment du Brésil notamment, mais qu'il faisait parfois des choses bien en course, parfois il envoyait la voiture dans le mur.
On en a fait beaucoup, c'est pour ça aussi, oui.
Exactement. Je ne pense pas du tout que ça soit un mauvais pilote, mais malheureusement il n'a pas non plus une voiture qui puisse lui permettre de montrer ses talents. Moi, je trouvais, fait un peu profil bas. Regarde, on a les propos de Pierre qui sont pleins de dignité, plein de lucidité. Et Pierre qui essaye au moins de dire, allez, il reste quand même 4 courses, pardon.
Puis il prend ses responsabilités aussi. Parce que
sortons la tête haute.
Dans l'interview, il dit, c'est aussi à moi de redonner
bien sûr.
Confiance
mais
à l'équipe.
C'est pour ça que je vous disais, les gars,
Gasly, s'il est tout seul, Gasly, Jean-Luc,
il arrive encore à avoir cette attitude de leader qu'il a récupéré depuis le départ de Esteban Ocon, qui était là depuis plus longtemps que lui. Et tu sens qu'il essaie d'endosser ce rôle-là. Mais c'est dur.
Il a beaucoup de mérite. De toute façon, Alpine n'a pas mis un point en championnat du monde depuis la Belgique, tenez-vous bien. Donc c'est un boulevard, quoi. C'est incroyable. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est là aussi, j'ose le dire, et encore une fois, j'adore Pierre, c'est un copain, c'est bon, mais c'est qu'il ne domine pas Colapinto plus que ça. Vous avez vu là aussi les temps en qualif, c'est un dixième, et en course. Et moi, je pense qu'il, j'espère pas l'offenser, il est en semi-vacances là, c'est clair, comme il l'a dit, bon, il compte les grands prix, mais c'est douloureux pour tout le monde. Voilà ce que vous avez dit là, en étant sérieux, parce que j'ai même pas envie de plaisanter. Et puis encore une fois, moi qui ai eu, la chance de connaître les grandes heures de Renault en tant que constructeur, en tant que fabricant de moteurs, je pense à tous les gens vraiment très importants dans le sport automobile mondial et particulièrement dans la Formule 1 qui ont fait cette histoire, voir cette fin, parce que c'est une fin définitive de la Formule 1 française, ça me fait vraiment très mal au cœur.
Oui, voilà. T'es obligé d'avoir une pensée pour les gens qui travaillent à Viry-Châtillon en voyant ça, que les derniers à avoir travaillé sur le moteur français qui voient leur dernier Grand Prix un peu jeté par la fenêtre comme ça, c'est
je crois qu'on a vu que le problème n'était pas vraiment le moteur.
Non, oui, on a vu aussi ça.
C'est ensemble.
Depuis plusieurs années, ça se passe à Enstone plus qu'à Viry-Châtillon.
La guéguerre qu'il y avait, où les Anglais, comme toujours, insinuaient que c'était le problème, c'était pas le châssis. Bon, ça fait des années que ça dure. Non, c'est terrible. Moi, je pense, je vais citer évidemment Denis Chevrier, qui, vous le savez, en plus, est un ami. Je pense que le pauvre Denis, il doit souffrir terriblement, tout comme Bernard Dudot. Enfin, la liste, elle est tellement longue. Non, c'est affreux. C'est une fin d'histoire qui est, et elle pouvait pas être pire.
Après, ils ont l'air de se projeter sur 2026 avec ambition, ou en tout cas,
c'est ça,
croient un petit peu.
Avec un moteur Mercedes, on verra ce que vaut le moteur.
C'est vrai.
Non, mais c'est plus une équipe française, vous êtes d'accord avec moi. Il n'y aura
bien
plus
sûr.
D'ailleurs.
Après, depuis le retour, parce que tu avais le rachat de Lotus, donc en fait, c'est depuis quelque part le départ de 2009-2010 aussi.
Mais il y avait encore ce côté. Il y avait Cyril Abitboul, il y avait des Français, etc.
Il y avait le Renault, la couleur.
On essayait de mettre des Français sur le devant de la scène, et où en fait, depuis que c'est devenu la marque Alpine, on a juste l'impression que c'est une transition vers...
Et le PDG est parti.
Et voilà.
Oui, quelle idée géniale. Lui, il a sauté, il a compris. Il a sauté en vol. Le pauvre Pierre, allez. Ouais. Courage Pierre, plus que 4 Grands Prix.
Les gars, merci beaucoup. On a explosé le timing. Là, ça sent la fin de saison quand même, parce qu'on avait 12 milliards de choses à dire. On s'est régalé pour ce Grand Prix du Mexique.
Tant qu'on n'est pas dans les 107%, ça va.
C'est vrai, t'as raison. Je vous rappelle que si vous aimez le paddock RMC, partagez-le à vos proches, notez-nous sur les plateformes de téléchargement et venez réagir avec nous sur la page Instagram. Je vous le disais, RMC Formule 1, mais franchement, on vous lit à chaque fois. On va essayer de relayer un max vos commentaires. Merci. Prochain Grand Prix, le Brésil. On va se régaler, les amis. Restez connectés. On parlera d'ailleurs dans le warm-up du Brésil de cette fameuse line-up Red Bull. On n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais il y a plein de choses à dire. On n'a pas parlé de Tsunoda non plus, donc ça sera pour le prochain warm-up.
Ni de la FIA, des élections de la FIA.
On pourra en parler dans le prochain warm-up. Non, mais faut que tu sois avec nous, Jean-Luc, pour parler de la FIA. T'es obligé d'être là. Allez, ciao,
super.
Bye.
Merci les gars.
Ciao.
Le paddock RMC.